10% de chômeurs en France. On est en train de parler d'autres sujets, alors que moi, je continue à considérer que ça doit être notre problème numéro un. C'est une honte pour notre pays, ce taux de chômage. Et il faut vite faire en sorte qu'on puisse le faire baisser. Nous avons donc tous considéré, syndicats et patronats, qu'il fallait un peu plus de flexibilité et un peu plus de sécurité, à la fois pour les entreprises et pour les salariés, pour le faire baisser. Dans ce cadre-là, et compte tenu aussi des contraintes internationales qui pèsent sur la France, parce que nous avons ratifié une convention OIT, la meilleure chose, c'était d'inventer ce mécanisme de séparation à l'amiable. C'est-à-dire si, finalement, on n'est pas dans une logique de faute, mais si je suis salarié, j'ai envie peut-être de passer à autre chose parce que je ne m'épanouis pas. Moi, je suis employeur, je vois bien effectivement que on n'apporte pas ce qu'il faut. Mettons-nous d'accord. La procédure est très claire. Elle n'est pas mise en cause. La procédure, à partir de ce moment-là, il y a un document, trois volets, pour rentrer dans le détail, qu'il faut remplir. Et c'est l'inspection du travail, enfin la direction du travail, plus exactement, la direction du travail, qui vérifie que le document, en trois volets dont je viens de parler, a été rempli correctement. Point. C'est tout. C'est fini, c'est acté, il n'y aura aucun problème là-dessus.
Alors, oui, je veux bien, très bien, on vous entend, mais on se demande si finalement il n'y a pas eu une volonté politique, là aussi, gouvernementale, de faire un dernier petit cadeau aux syndicats en disant, regardez, s'il y a un problème, ce sont les prud'hommes qui généralement sont plus favorables aux salariés qu'aux patrons qui trancheront.
Je crois que le point que vous évoquez, parce que là c'est vraiment un truc très juridique, pardon de dire un truc, c'est à partir du moment où il y aura toujours, nous sommes dans un état de droit. Et quoi qu'il arrive, un recours est toujours possible. Ça, alors là, nous ne contestons pas. À partir du moment où on faisait intervenir la direction du travail, la question qui pouvait se poser, c'est est-ce que, en cas de recours, on va dans une logique de droit administratif, tribunal administratif, conseil d'État, etc., ou est-ce qu'on va dans une logique civile, prud'homme, cour d'appel, cour de cassation? Nous avons tous été d'accord pour dire qu'on va dans une logique civile. Oui. C'est tout.
2008, la grande question qui sera également au cœur de toutes les discussions, c'est celle des retraites. Vous voulez que les Français travaillent plus longtemps, vous l'avez dit, 62 ans, et à terme, d'ici une dizaine d'années, vous avez même évoqué l'âge de 63 ans. Xavier Bertrand a dit non, travaillons déjà jusqu'à 60 ans et arrêtons de licencier les seniors qui sont souvent mis sur la touche à partir de 57, 58 ans. Est-ce que votre bras de fer avec Xavier Bertrand va bien se passer dans les semaines qui viennent?
Écoutez, c'est pas un bras de fer. Je ne jouerai pas assez avec lui. Je pense qu'il est un peu plus costaud que moi.
Il y a des chances. Il ne va pas être désagréable,
des biceps,
mais c'est possible.
Tant mieux. Je crois que ce que nous demandons, c'est d'abord de réfléchir. D'abord de comprendre la situation. Quelle est-elle? Nous sommes le seul pays de l'OCDE qui ait un âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Tout le monde est bien au-dessus, la moyenne étant à 65 ans et beaucoup étant à 67 ans. Nous sommes par ailleurs le seul pays, avec le Danemark, j'en conviens, à avoir baissé l'âge légal de départ à la retraite dans les années 80. Mmh. Tous les autres pays ont augmenté l'âge légal de départ à la retraite. Je crois qu'il faut, vous savez, on a fait une convention au MEDEF à Bruxelles, on a dit benchmarker, c'est la santé. Benchmarker, c'est regardons ce qui se passe ailleurs, oui. Comparons, regardons où est la norme, regardons où est la référence et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que là, on est quand même dans quelque chose qui me semble une anomalie. Pourquoi est-ce que nous, on serait capable de tenir ça alors que tous les autres pays ont été amenés à bouger?
Mais comment est-ce que c'est pas une anomalie que tous les autres pays, justement, travaillent plus longtemps et emploient les seniors alors que nous, on n'est déjà pas capable de les faire travailler jusqu'à 60 ans?
Alors, quel est le chiffre d'inactivité des seniors? On nous dit qu'il est de l'ordre, sur les 55-65 ans, de l'ordre de 60%. Moi, je voudrais qu'on me dise, demander au gouvernement sur cette proportion, quelle est la part qui vient du secteur privé, quelle est la part qui vient du secteur public.
Ça expliquerait, ce serait le secteur
une large partie. Maintenant, il y a une autre explication. Il y a eu un consensus que j'estime scandaleux depuis, alors je crois, au moins 30 ans, un consensus État, patronat, syndicat, pour faire en sorte que les gens partent en pré-retraite à 50 ou 55 ans. C'est un consensus commun. qui est, à mon avis, inadmissible. Ah, scandaleux. Je peux le répéter. Donc, aujourd'hui, nous payons cette situation qui a été installée, en particulier dans les années 70. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? D'abord, beaucoup de choses ont été faites, et notamment, j'avais été la première à le demander, avant même d'avoir été élue présidente du MEDEF, la suppression de la contribution de la lande, qui a créé des dégâts considérables. Mais on s'en remet tout juste maintenant, parce que il y avait une telle un tel malus si on embauchait quelqu'un de plus de 45 ans qu'on a cessé d'embaucher des gens de plus de 45 ans pendant des années. Donc il faut le temps de rééquilibrer les choses. La dernière chose que je voudrais dire, pourquoi je préconise, et vous, en tout cas je demande qu'on réfléchisse, c'est pas un bras de fer, je demande qu'on réfléchisse à l'effet de repousser l'âge légal de la retraite. Quand vous êtes un chef d'entreprise aujourd'hui, vous avez deux candidats. Un qui a 59 ans et puis un qui a 45 ans. Eh bien, compétences égales, etc. Qu'est-ce que vous vous dites? Il vaut mieux que j'embauche celui qui a 45 ans. Je vais pouvoir miser sur lui. Je vais pouvoir investir en formation, en adaptation à la culture de notre entreprise. Qu'est-ce que je me dis sur celui qui a 59 ans? Et la corrélation, si je continue à comparer les pays européens, la corrélation est parfaite. Plus vous repoussez l'âge légal de départ à la retraite, plus le taux d'activité des seniors augmente.
Je voudrais juste une dernière question sur,
ces
grands patrons. Il y a 15 jours, vous avez saisi la commission d'éthique du MEDEF sur l'augmentation de 40% des patrons du CAC 40 en France. Je voudrais savoir si vous avez déjà des premières conclusions et à quoi est-ce que ça va servir.
Alors, d'abord, il y avait deux études.
Madame Parizeau, pardon, mais vraiment en un mot, parce qu'on est en train de...
Très bien, alors je vous donne rendez-vous quand on aura les résultats du comité éthique qui commence seulement son travail, mais je suis tout à fait d'accord pour revenir vous en parler, pour voir si ce 40% est réel ou pas, et si au cas où il est réel, s'il est justifié ou pas.
Merci Madame Parizeau d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Je remarque juste une chose. Vous avez dit truc à un moment donné et aussitôt vous vous êtes excusé. C'est dire si vous choisissez vos mots avec attention. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation ce soir.
J'aime la langue française et moi je voudrais bien que les académiciens intègrent le mot benchmarké dans la langue française.
Alors ça c'est encore autre chose. Très bonne soirée à vous, bonsoir.
Bonsoir Stéphane Paoli, je vous rappelle que vous pouvez réécouter le franc-parler sur notre site franceinter.com. Jusqu'où peut-on aller pour devenir riche et puissant? France Inter présente There Will Be Blood, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, 8 nominations aux Oscars, avec Daniel Day-Lewis au cinéma le 27 février. Dans le Grand Ouest américain, une fresque épique nous plonge au cœur d'une saga familiale, entre foi et pouvoir, dans la fièvre de la découverte de l'or noir. Retrouvez There Will Be Blood dans les émissions de France Inter. France Inter et France 2, partenaires des Victoires de la Musique 2008. On dit qu'il est fait. Une soirée exceptionnelle, samedi 8 mars à 20h50, en direct sur France Inter et France 2, au Zénith de Paris. 3 heures de musique live avec les artistes qui ont marqué l'année 2007. Samedi 8 mars à 20h50, France Inter, France 2, avec le Crédit Mutuel, donne le la aux Victoires de la Musique. Et sur franceinter.com.
Vous écoutez France Inter, il est 20h16 minutes et 30 secondes.
La météo marine avec Saint-James, créateur français de mode marine.
Et avec Marie-Pierre Plonchon surtout. Bonsoir Kathleen Yvain, bonsoir à toutes et à tous. Pour les zones de l'Atlantique et de la mer du Nord, coup de vent à violente tempête large en cours ou prévu. Pour Viking, Utsir, Forties, Cromarty, Forth, Tyne, Dogger, Fisher, German, Amber, Tamise, Pas-de-Calais, Antifer, Casquet, Ouessant, Sol, Shannon, Fastnet, Landy, Irish Sea, Rockall, Malines et Hébrides. Grand frais sur Iroise. La situation générale et l'évolution. Dépression de 962 hectopascales centrée à 500 000 au nord-ouest de l'Irlande se déplacera vers le nord-est en se creusant. Elle est prévue à 960 hectopascales entre l'Islande et l'Écosse la nuit prochaine, puis à 963 hectopascales sur le nord de la mer du Nord le 27 à minuit. La perturbation associée abordera les îles britanniques cet après-midi et se déplacera vers le sud-est en traversant la Manche et le nord du golfe de Gascogne cette nuit. Les prévisions par zone pour ces prochaines 24 heures. Pour Viking Utsir, vent de sud 7 à 8, virant sud-ouest 7 le matin, de fortes rafales, mer très forte de la pluie. Pour Forties, Cromarty, Forth, Tyne, Dogger, vent de sud à sud-ouest force 8, virant sud-ouest 7 la nuit, fraîchissant 8 à 9 le matin, de fortes rafales, mer très forte à grosse de la pluie. Pour Fisher et German, vent de sud-ouest 7, passagèrement 8, mer très forte à grosse de la pluie. Pour Humber, vent de sud-ouest 6 à 7, fraîchissant 8 sur le sud-est, de fortes rafales, mer forte de la pluie. Pour les zones Tamise, Pas-de-Calais et Antifer, vent de sud-ouest 4 à 5, fraîchissant 6 à 7 le soir, passagèrement 8, puis virant ouest à sud-ouest 4 à 6 en fin de matinée, de fortes rafales, mer agitée à forte de la pluie. Pour Casquet-Ouessant, vent de sud-ouest 6, fraîchissant progressivement 7 à 8 le soir, virant ouest 5 à 6 le matin, de fortes rafales, mer très forte de la pluie. Pour Iroise, vent de sud-ouest 5, fraîchissant 7 le soir, virant ouest à nord-ouest 5 le matin, de fortes rafales, mer forte, paroule de nord-ouest devenant très forte des pluies et des bandes brumes. Pour Yeux et Rochebonne, vent de sud à sud-ouest 3 à 4, virant progressivement sud-ouest 5 à 6 la nuit, passagèrement 7 sur la zone Yeux, virant nord-ouest 4 à 5 par l'ouest l'après-midi, des rafales, mer forte à très forte de la pluie. Pour Cantabrico, vent de sud dominant 2 à 4, virant ouest à sud-ouest 3 à 5 le soir, fraîchissant 6 sur le nord-ouest en fin de nuit, mer agitée à forte, paroule de nord-ouest devenant très forte à l'ouest demain, de la pluie par l'ouest. Pour Finistère, vent de sud-ouest 5 à 6 sur le nord le soir, mer forte ou de nord-ouest devenant très forte au nord-est demain, de la pluie. Pour Pazenne, vent de sud-ouest 6 mais 7 au nord, virant nord-ouest 5 par le nord-ouest le matin, des rafales, mer très forte, de la pluie. Pour Sol, vent de sud-ouest 7 à 8, virant ouest à nord-ouest 5 à 6 par l'ouest la nuit, mollissant 5 l'après-midi, de fortes rafales, mer très forte, de la pluie. Pour Shannon, vent de sud-ouest 7 à 8, virant ouest à nord-ouest 6 à 7 en matinée, revenant ouest 5 à 6 à la fin, de fortes rafales, mer grosse de la pluie. Pour Fastnet et Lundy, vent de sud-ouest 7 à 8, virant ouest 6 à 7 dans le courant de la nuit, de fortes rafales, mer très forte de la pluie. Pour Irish Sea, vent de sud-ouest 8, passagèrement 9, mollissant 7 la nuit, de fortes rafales, mer très forte de la pluie. Pour Rockall, vent de sud-ouest 9, fraîchissant 10 à 11 sur le nord la nuit, virant progressivement ouest à nord-ouest, puis mollissant secteur ouest force 8 dans le courant de l'après-midi, de violentes rafales, mer très grosse des pluies. Pour Malines et Hébrides, vent de sud-ouest force 9, virant ouest à nord-ouest 9 à 10 en fin de nuit, mollissant 8 à 9 en fin d'après-midi, de fortes rafales, mer très grosse des pluies. Pour les zones méditerranéennes, pas de coup de vent en cours ni prévu, pas de grands frais en cours prévu. La situation générale et l'évolution, haute pression de 1020 à 1025 hectopascales sur le bassin méditerranéen. Les prévisions par zone, pour Aise de Cabrera, vent variable 2 à 3, puis vent de sud-est dominant au début, mer belle à peu agitée. Pour Baléares, vent variable 2 à 3, mer belle à peu agitée. Pour Minorque, vent de sud à sud-est 2 à 4, puis variable 2 à 3 plus tard, mer belle à peu agitée. Pour Lyon et ouest de Provence, vent de sud-est 4 force 5 au parage Béarn au début, puis vent de sud dominant 2 à 4 plus tard, mer agitée s'atténuant des pluies éparses. Pour les zones est de Provence, Ligure et Corse, vent variable 2 à 4 s'orientant sud-ouest demain après-midi, fraîchissant force 5 près des côtes varoises et de la côte d'Azur. À la fin, mer belle à peu agitée. Pour Sardaigne, vent variable 2 à 3, mais vent d'est à sud-est dominant 2 à 4 au début, mer belle à peu agitée. Et enfin, pour terminer les zones Maddalena et Elbe, vent de sud à sud-est 2 à 4, puis variable en journée, mer belle à peu agitée. Voilà, c'est fini pour ce soir. Prochain rendez-vous de la météo marine demain matin, 6h47, sur les ondes moyennes de France Info, et comme chaque soir sur France Inter, aux alentours de 20h05. Et tout de suite, à 20h21, j'ai le plaisir de vous laisser en compagnie de Kathleen Evin.
Rebonsoir, Marie-Pierre.
Humeur vagabonde qui nous emmène découvrir un monde d'apprentis sorciers, Kathleen.
Oui, je ne souhaite pas bon appétit, là. Franchement, je vais vous dire, ça m'a coupé l'appétit pour au moins deux siècles.
Bon,
allez, bah, écoutez, à demain, donc.
À demain.
Au début de mon mandat, il y avait un consensus dans l'agroalimentaire et au sein du gouvernement des États-Unis. Si on ne marchait pas tête baissée en faveur du développement rapide de la biotechnologie et des cultures OGM, alors on était considéré comme anti-science et anti-progrès. Franchement, je pense qu'on aurait dû faire plus de tests. Mais les entreprises agro-industrielles ne voulaient pas parce qu'elles avaient fait d'énormes investissements pour développer ces produits. Et en tant que responsable du service qui réglementait l'agriculture, j'ai subi beaucoup de pression pour, disons, ne pas être trop exigeant. La seule fois où j'ai osé en parler pendant le mandat de Clinton, je me suis fait taper sur les doigts, non seulement par l'industrie, mais aussi par les gens du gouvernement. En fait, j'ai prononcé un discours où j'ai dit qu'il fallait qu'on étudie plus sérieusement la réglementation des OGM. Et il y avait des gens à l'intérieur du gouvernement Clinton qui étaient fâchés contre moi.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dan Glickman fut ministre de l'Agriculture sous l'administration Clinton de 1995 à 2000. Encore un utopiste qui pensait qu'avant de mettre des substances génétiquement modifiées sur le marché, la firme qui les produisait devait fournir à l'administration des tests fiables prouvant leur innocuité pour les consommateurs. Mais lorsque des milliards de dollars sont en jeu pour l'entreprise, en l'occurrence Monsanto, et que les États-Unis s'apprêtent à inonder le reste du monde de leur nouvelle biotechnologie, bien imprudents sont ceux qui posent de dérangeantes questions. Et justement, la journaliste Marie-Monique Robin a l'art d'aller fouiner là où cela va déranger le maximum de puissants et contrarier de gros intérêts. Cette fille d'agriculteur avait déjà signé en 2005 un film sur le soja et un autre sur le blé qui lui avait permis de flairer la piste Monsanto. Après 3 années d'enquête sur 3 continents, elle nous livre aujourd'hui le fruit terrifiant de son travail. Un livre, Le Monde selon Monsanto, qui paraîtra le 6 mars aux éditions de La Découverte, et un film qui sera diffusé le 11 mars à 21h sur Arte. De quoi donner des sueurs froides à tous, mais surtout, espérons-le, réveiller les consciences de nos dirigeants et la combativité des consommateurs. Marie-Monique Robin est ce soir l'invitée de l'humeur vagabonde. Didn't get it from the Lord, but I know I got it, I know I got it. I didn't get it from the Lord, I got it from my brother, I got it from my sister, I got it from my mother and father, I got it from myself.
La raison pour laquelle la FDA a autorisé la mise sur le marché de la RBGH, c'est que beaucoup d'anciens salariés de Monsanto occupaient des postes clés à la FDA. Ils ont rejoint l'agence pour faire homologuer le produit.
C'est ce qu'on appelle les portes tournantes, avec un effet de double hélice.
Les portes tournantes. Oui, les portes tournantes.
Il n'y a pas qu'en agriculture qu'il y a des portes tournantes. C'est dans beaucoup de secteurs.
Donald Rumsfeld était le PDG de Searle, qui était une filiale de Monsanto. L'ambassadeur américain du commerce extérieur, Mickey Cantor, a fini au conseil d'administration de Monsanto. Clarence Thomas, juge à la Cour suprême, a travaillé pour Monsanto.
Monsanto Revolving Doors, en français, les chaises musicales, état des lieux non exhaustif en 1999. Linda Fisher passe de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, à Monsanto. Michael Friedman de la FDA à Monsanto. Marcia Hale et Josh King de la Maison Blanche à Monsanto. Margaret Miller de Monsanto à la FDA. William Reichelshaus de l'EPA à Monsanto, sans oublier Michael Taylor, qui a fait plusieurs fois l'aller-retour.
Bonsoir Marie-Monique Robin.
Bonsoir.
On vient d'entendre votre voix dans ces extraits de votre film Le Monde selon Monsanto, qui va donc passer le 11 mars sur Arte, qui passe ce soir, je le dis pour nos amis belges, qui va passer ce soir sur la RTBF à 22h. Et je pense que personne ne doit rater ce film. D'ailleurs, est-ce que ce film va être... est-ce qu'il y aura une projection prévue pour les membres de nos assemblées parlementaires et du gouvernement?
Oui, la bonne nouvelle, voilà, c'est une bonne nouvelle. Est prévue le 31 mars à 18h, je crois, ou 18h30 à l'Assemblée nationale.
Parce qu'alors, moi, je vais faire publiquement l'aveu que je vous ai fait, Marie-Monique Robin, hors micro. Je n'avais jamais tellement pris au sérieux José Bové, enfin en dehors de la personnalité de José Bové, je trouvais que ces histoires d'arrachage, de maïs, tout ça. Eh bien là, je dois dire que votre film m'a fait complètement changer d'avis. Alors si je comprends bien, Monsanto dirige le monde.
En tout cas, Monsanto est une firme qui est très forte pour imposer ses produits sur les marchés internationaux. Voilà, c'est au moins ce qu'on peut dire. Et comment ils le font? Bon, bien entendre, les Revolving Doors, hein, c'est le pantouflage matiné de chaises musicales. Bon, ils sont absolument champions nationaux. Tous mes interlocuteurs l'ont dit quand je les ai rencontrés aux États-Unis. Mais ils font aussi le même travail de lobbying auprès de toutes les agences européennes comprises, auprès de la communauté scientifique, de la presse. Il est absolument frappant quand vous travaillez sur un sujet comme celui-ci, vous allez de surprise en surprise, parce que franchement, c'est vraiment le cas, de voir combien de personnes, ce qu'on appelle les whistleblowers, vous savez, on a trouvé un terme avec Grenelle, les Grenelles de l'environnement, on parle maintenant de lanceurs d'alerte. J'espère qu'on ira jusqu'au bout, qu'on leur donnera un statut pour les protéger, parce qu'on en a vraiment besoin, ces gens-là. Dans le dossier Monsanto, il y a beaucoup de whistleblowers, de lanceurs d'alerte, qui, soit au sein de la FDA, soit au sein de la communauté scientifique, ont dit « attention, il y a un problème, il faut vérifier, il faut au minimum appliquer le principe de précaution ».
Oui, on en rencontre pas mal, des scientifiques confirmés, Marie-Monique Robin, dans votre film, mais quand vous dites « oui, ils donnent l'alerte », mais en général, ça leur porte pas bonheur.
Ah non.
En général, ils perdent leur boulot. Mmh. Dans le meilleur des cas, leur tutelle politique leur demande de la boucler. Mmh. Bon, quand ils sont pas carrément virés, quand ils ne sont pas démolis dans leur réputation par des faux rapports, des attaques sur Internet, ce sont des gens en fait qui alertent sur les dangers réels que font courir tous ces produits que Monsanto répand dans le monde entier, mais en général ils le payent très 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 cher.
Ils le payent très cher, et je peux même vous dire que il n'est pas évident de les interviewer finalement, parce que la plupart d'abord ont été licenciés, comme vous venez de le dire. Hein. Je pense au vétérinaire Richard Burroughs par exemple pour l'hormone de croissance bovine, qui s'est fait virer hein, comme un malpropre, et qui dont personne ne savait où il était. Enfin, et puis ils ont peur. Ils ont peur de parler. C'était assez curieux parce que je me disais, a priori, c'est des victimes de toute cette machine. Hein. Ça va être facile de les convaincre de parler. Non, parce que il faut d'abord qu'ils vérifient qui vous êtes. Ils vous googlisent tous. Alors ça, c'est le nouveau terme à la mode. Enfin, tout le monde vous googlise. Alors, heureusement, quand vous avez fait d'autres films avant, on peut vérifier un peu qui vous êtes. Mais donc, c'est quand même, je vais dire très simplement, c'est la peur qui règne. Véritablement.
Je veux dire, c'est la peur qui règne aussi parmi ceux qui regardent votre film et qui lisent votre livre, Marie-Monique Robin. Alors, on va commencer l'histoire. Bon, Monsanto, c'est une firme américaine. On vient d'entendre que la FDA et le gouvernement américain n'avaient pas finalement grand-chose à lui refuser. Mais on va commencer l'histoire par chez nous, en France, par exemple, où on pratique beaucoup l'épandage de Roundup. C'est, le Roundup, c'est l'herbicide le plus connu des retraités, des petits agriculteurs, des gens qui cultivent sur leur balcon, mais aussi des grands céréaliers américains. On va écouter ce qu'en dit le professeur Bellet du CNRS et de l'Institut Curie.
La très grosse surprise a été que le Roundup a un effet sur la division des cellules. Et très vite, on s'est aperçu que ce qui était touché par le Roundup était un point clé de la division. C'est-à-dire pas les mécanismes de la division elle-même, mais les mécanismes qui contrôlent la division des cellules. Il faut comprendre comment naît un cancer. Les cellules, au départ, ne sont pas cancéreuses, et à partir d'un certain moment, il y a des modifications en elles, et la modification principale, c'est ce qu'on appelle devenir instable du point de vue génétique. Et c'est ce premier dérèglement qu'on a observé avec le Roundup. Et c'est pour ça que l'on dit que pour nous, le Roundup induit les premières étapes qui conduisent au cancer. Et nous faisons attention de ne pas dire induisent des cancers, puisque les cancers, on les verra dans 30 ou 40 ans. On s'est tout de suite nous rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir au niveau des utilisateurs, puisque les doses correspondaient à des doses quand même très en dessous des doses qu'utilisent les gens. Et on s'est dit, mince, il faut vraiment qu'on alerte le mieux possible et le plus vite possible l'opinion publique, d'une certaine façon. Alors pour faire ça, moi je me suis dit, le meilleur système, c'est de m'adresser à mes tutelles. Et j'étais un peu surpris, même très surpris. On nous a suggéré ou fortement incité à ne pas communiquer parce qu'il y a cette question des OGM derrière.
Et voilà, la tutelle politique donc du CNRS et de l'Institut Curie et des chercheurs qui alertent, qui tirent les sonnettes d'alarme sur les dégâts du Roundup, leur tutelle leur demande de la boucler un peu parce qu'il y a les OGM et que les OGM ça rapporte beaucoup d'argent et que là aussi il y a le lobbying. Et vous dites, Marie-Monique Robin, que le Roundup menace aujourd'hui notre santé à tous. On mange des légumes et tous ces légumes sont arrosés de Roundup.
Bien sûr. Alors, vous savez que cet herbicide, qui est l'herbicide le plus vendu au monde depuis 30 ans, Monsanto a réussi à l'imposer un peu partout avec une publicité très bien rodée qui disait que c'était donc biodégradable et bon pour l'environnement. Alors, il est important de noter que la firme a déjà été condamnée pour publicité mensongère à New York en 1997 ou 98, et que nous, il a fallu attendre, alors, 10 ans pour avoir la même condamnation. Je rappelle, je suis sûre que tous les auditeurs se souviennent de cette publicité. Il y avait un petit chien
charmant qui déterrait son os, voilà. Et qui d'abord mettait du Roundup pour tuer la mauvaise herbe.
Voilà, et puis après le manger, tout juste, il finissait pas avec un verre de Roundup, vous voyez, pour faire... Monsanto vient aussi d'être condamné en France pour publicité mensongère. Et il faut savoir qu'il y a d'autres études qui montrent que c'est un perturbateur endocrinien. C'est pas uniquement cancérigène, comme le dit le professeur Bellet. C'est aussi un perturbateur endocrinien. C'est un produit toxique. Et vraiment, le professeur Bellet, dans l'interview, je le raconte dans le livre, je lui dis, alors il faut faire quoi si on veut utiliser absolument le Roundup? Eh bien, il faut un masque, une combinaison, des bottes, personne à 500 mètres à la ronde, pas de pluie, pas de vent, et là, vous pouvez peut-être être tranquille, vous n'aurez pas de problème. Vous rendez compte ce que ça veut dire? Tous nos jardiniers utilisent ça. Vous-même, les carottes que vous mangez, il y a eu du Roundup avant et on l'a semé ensuite dans un sol imbibé de Roundup. Donc, je trouve ça vraiment très grave. Et c'est une urgence sanitaire que de publier cette vérité, c'est-à-dire que le Roundup est toxique, ce n'est pas bon pour l'environnement et c'est pas bon du tout pour les êtres humains.
Alors malheureusement, s'il y avait que le Roundup, ça serait déjà terrible, mais Monsanto, c'est toute une gamme de produits donc qui inondent le monde. C'est aussi les fameux PCB, en France ça s'appelle du pyralène, et il y a eu beaucoup d'articles pour dénoncer les dégâts que cause le pyralène, notamment sur les femmes enceintes. C'est le défoliant, le célèbre agent orange, qui a causé les dégâts que l'on sait au Vietnam et sur les militaires américains qui n'ont n'ont jamais été indemnisés pour les maladies qu'ils ont récoltées après avoir épandu l'agent orange sur les forêts vietnamiennes. Et puis, il y a un endroit entier de l'Alabama, aux États-Unis, où là, la mort s'est répandue. Je me demande d'ailleurs si c'est pas cette histoire d'Aniston dans l'Alabama qui a inspiré le célèbre scénario du film Erin Brockovich, où on voit effectivement quelques avocats se lancer dans la défense difficile d'une population massacrée par les PCB.
Ici, il n'y a que des Noirs qui vivent. Ils continuent à y habiter, même si toutes les maisons ont été polluées. Il y a 6 mois, ils ont décontaminé ce jardin là-bas. Avant, ici, il y avait des maisons, des gens qui y habitaient. Mais maintenant, ils ont dû déménager. Les maisons ont été démolies. Vous voyez le talus là-bas? C'est là que les PCB sont enterrés. Monsanto a eu l'autorisation d'enterrer les PCB à Aniston. C'est le canal de Snow Creek qui coule sur du ciment. Il partait de l'usine et déversait les PCB jusqu'ici. C'était de l'eau empoisonnée et ils ne l'ont dit à personne, sauf à l'État qui ne nous a rien dit.
Nous avons tous des PCB dans nos corps. Les ours polaires et les pingouins ont des PCB. Par le passé, il n'y avait que quelques sites où l'on se débarrassait des PCB. Mais avec le temps, ils ont contaminé l'air et l'eau. Maintenant, toute la planète est contaminée par les PCB. Les PCB causent beaucoup de maladies. La plus connue est le cancer.
Marie-Monique Robin, là aussi, on entend les habitants d'Aniston dire « En fait, le gouvernement était au courant. Monsanto avait quand même prévenu, mais nous, le gouvernement ne nous a pas prévenus. » Et en entendant ça, évidemment, la mémoire se remet en marche et on se dit c'est exactement la même chose qu'avec l'amiante, qu'avec le sang contaminé, qu'avec l'hormone de croissance, qu'avec la vache folle. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'argent à faire quelque part, tout d'un coup, les autorités tutelles, qui, comme leur nom l'indique, devraient nous protéger, nous avertir, deviennent soudain muettes, sourdes, aveugles.
Ah oui, et là, l'histoire des PCB, je trouve vraiment, c'est absolument dramatique. Bon, cette ville de Aniston, ça se passe pas en Inde, hein, je veux dire, hein, ça se passe
en Alabama.
Dans l'Alabama, dans le sud des États-Unis. Monsanto a été condamné finalement en 2002 à payer une amende très forte de 700 millions de dollars qui serait partie entre les assurances, enfin, etc. 700 millions de dollars, en tout cas, c'est l'une des plus grandes fortes amendes jamais payées par une firme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Monsanto savait depuis le début quasiment que ces PCB étaient très toxique, provoquer des lésions au foie, une maladie qu'on appelle, vous savez, la chloracné, qui est cette maladie caractéristique de la dioxine. Et ces documents sont aujourd'hui déclassifiés. Tout le monde peut les trouver sur Internet. Je donne toutes les coordonnées. Et on voit, il y a un document qui résume tout ça. C'est absolument vertigineux. Il y a un document, ça se passe en 1970, c'est Monsanto qui écrit un courrier à ses représentants commerciaux. Il y a déjà plein de bruits qui courent comme quoi les PCB sont vraiment très dangereux. Et au lieu de se dire, ça y est, on va les retirer, non. La consigne, c'est de, vous ne dites rien. Si on vous pose, les clients vous posent des questions sur la toxicité des PCB, vous ne dites rien par écrit. Et la phrase de la fin, c'est « We can't afford to lose $1 of business ». On ne peut pas se permettre de perdre $1 de business. C'est ça qui résume le comportement de la firme, je suis désolée de le dire, depuis sa création il y a plus d'un siècle. Et ça, c'est terrifiant. Parce que, je veux dire, même c'est assez emblématique finalement de tout ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, toutes ces molécules, on parle de 100 000 molécules chimiques qui ont été mises sur le marché, qui n'ont pas été testées, et qui habitent nos maisons, qui sont dans l'air que nous respirons. Donc il est vraiment temps que les citoyens que nous sommes demandent des comptes. Et disent on veut savoir et on veut que les produits soient testés parce que les gens qui sont censés nous protéger ne font pas leur travail.
D'autant que la pression des citoyens finalement parfois, ça finit par marcher, même si ça marche un peu de manière bancale. Là, on vient d'avoir un moratoire sur l'introduction du fameux maïs OGM Monsanto 810. Donc, c'est un moratoire, c'est pas définitif. Mais c'est vrai que, par exemple, l'Europe et le Japon ont évité, grâce à leurs barrières sanitaires, c'est-à-dire le refus des céréales contaminées par les OGM. Du coup, les céréaliers américains qui ont accepté le Roundup pour toutes leurs autres cultures, le soja, le maïs, Eh ben, ils l'ont refusé pour le blé, parce que comme le blé est exporté à 80% en Europe et au Japon, alors du coup, les céréaliers américains ont dit, ah ben non, du coup, là, on veut pas de Roundup dans notre blé.
Oui. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, ça prouve ce qu'on m'a dit quand j'étais là-bas, au Canada et aux États-Unis. Vous avez tout à fait raison, ces grands céréaliers qui sont très puissants, hein, n'avaient rien contre les OGM, puisqu'ils faisaient déjà du colza, du soja, et massivement. Quand ils ont compris que leur blé, qu'ils exportent à 80%, par exemple, pour le Canada, serait refusé par nous, les consommateurs, ils ont dit stop. Ils ont dit stop pour des raisons économiques, mais aussi parce que quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils étaient très préoccupés par une autre conséquence des OGM. Et on peut commencer à tirer un premier bilan, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché, notamment aux États-Unis. Ils se sont rendus compte que le colza, par exemple, le colza non transgénique, avait disparu à cause de la contamination par voie aérienne, hein, parce que c'est une plante qui se...
Oui, voilà, dès que c'est planté, dans un maïs, champ, hein. Tous les autres sont contaminés.
Et du coup, ça a fait disparaître toutes les variétés non transgéniques. Je ne parle même pas de ceux qui voulaient faire du colza bio, parce qu'il n'était plus possible, vous ne pouvez plus avoir votre agrément. J'ai rencontré plusieurs paysans qui sont dans cette situation, parce qu'il suffit qu'il y ait un insecte, un coup de vent, et j'en ai rencontré un qui m'explique ça. Donc, ils avaient aussi cette crainte-là. Parce que finalement, les OGM, c'est le dernier avatar de la révolution agricole, ce qu'on appelait la révolution verte, qui s'est, vous le savez sans doute, accompagnée d'une réduction de la biodiversité. C'est par exemple le blé, il est de plus en plus productif, il fait de plus en plus, de rendement, mais le patrimoine génétique dans lequel ces variétés s'inscrivent est de plus en plus réduit. Moi, j'ai fait un film là-dessus, sur l'histoire du blé, on se rend compte qu'il y a presque... Enfin, les variétés sont très réduites. Et là, avec les OGM... Et les brevets qui accompagnent les OGM, ça va encore accentuer le phénomène. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a, comme en Argentine où je suis allée, 16 millions d'hectares de soja transgénique, la même variété grosso modo, vous avez une maladie qui se met là-dedans, comme ils ont eu très récemment avec la rouille, c'est un autoroute pour les maladies. Ça veut dire qu'au bout du compte, c'est la famine au bout de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça... Si vous faites ça avec des grandes plantes nourricières comme le blé, vous mettez en cause la sécurité alimentaire du monde. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les OGM, c'est contre la biodiversité. La biodiversité, c'est elle qui garantit la sécurité alimentaire des hommes. Parce que les variétés, elles sont en général adaptées à des terroirs, à des climats. Ce qui n'est pas le cas avec les OGM. Donc, les grands céréaliers américains ont compris ça aussi. Et c'est la première fois que Monsanto a dû reculer. C'était un énorme échec, parce qu'ils avaient investi vraiment des centaines de millions de dollars pour mettre ce blé Roundup Ready sur le marché. Ils ont dû reculer. Et je pense que, comme vous le dites vous-même, c'est grâce à nous, les consommateurs.
Alors, peut-être que pour les Américains, leur lait aussi va s'améliorer, parce que comme ils ne l'exportent pas, mais ils le boivent, eh bien, le lait est bourré d'hormones de croissance bovine, les HCB, qui sont interdites partout, même au Canada, mais qui sont encore, évidemment, en vente libre pour les bovins aux États-Unis. On écoute l'histoire du lait contaminé aux États-Unis.
Les données scientifiques que la compagnie a envoyées ne prenaient pas en compte les besoins des producteurs de lait, à savoir des questions clés comme les maladies que sont la mamite, c'est-à-dire l'infection des pies, et les problèmes de reproduction. Alors quand j'ai vu que toutes ces données manquaient, j'ai dit « Hey les gars, vous devez récolter plus d'informations ». Ça les a retardés de 2 ou 3 ans.
Avez-vous averti la FDA de vos préoccupations?
Petit à petit, j'ai été marginalisé. Mon chef a mis des proches sur le dossier et j'ai eu de moins en moins accès aux données, y compris les choses que j'avais personnellement demandées, comme les études sur la mamite. J'étais devenu un obstacle. Alors, ils ont décidé de m'éliminer en me mettant au placard. Finalement, j'ai été licencié. Un jour, on m'a raccompagné à la porte et c'était fini pour moi.
Est-ce que vous avez été menacé?
Oui, par les avocats de Monsanto. Quand j'ai contesté mon licenciement devant la justice, ils ont dit à mon avocat qu'il me ferait un procès si je révélais des secrets de la compagnie pour ma défense.
Voilà, là c'est le vétérinaire de la FDA qui a été licencié, mais vous racontez aussi une autre histoire, Marie-Monique Robin, parce que vous êtes allée partout, et il y a un laboratoire très réputé à Aberdeen, donc en Écosse, et là il s'est passé aussi une chose comme ça, c'est-à-dire que des scientifiques qui avaient alerté leur tutelle politique anglaise sur le fait que un certain nombre de produits de Monsanto provoquaient chez leurs rats, enfin chez leurs animaux de laboratoire, des choses vraiment bizarres et que du coup les tests de Monsanto ne paraissaient pas fiables, eh bien eux aussi ils ont été licenciés et il semble qu'il y ait eu un coup de téléphone direct de la Maison Blanche à Tony Blair en disant arrêtez de nous embêter avec nos OGM, il y a trop d'argent, et Tony Blair a dit bon, on arrête avec ce laboratoire.
On licencie le chercheur, on dissout toute son équipe. Alors c'était d'autant plus intéressant que quand cette histoire se passe, les premiers OGM ne sont pas arrivés encore en Europe. Je rappelle qu'au début, l'Europe a été très bienveillante avec les OGM. On aurait pu les avoir très vite dans nos champs. En tout cas, on les a laissés importer très rapidement. Il a fallu le travail d'associations comme Greenpeace, parce que franchement, c'est grâce à eux qu'il y a eu une alerte. En tout cas, ce laboratoire, qui est le meilleur laboratoire nutritionniste d'Europe, était en plus pro-OGM au début. C'est ça qui est très intéressant. Ils se sont dit, on va faire une étude top. C'est avec vraiment un protocole absolument irréprochable, avec des rats jeunes pris à la naissance qu'on va suivre pendant 2 ans. Et donc, le produit qu'on testait, c'était des pommes de terre transgéniques. C'est toujours le même principe, hein, une pomme de terre dans laquelle ils avaient inséré un gène qui faisait que la pomme de terre repoussait les pucerons. Voilà, une espèce de pomme de terre insecticide, on va dire. Et quand ils ont une équipe de 30 chercheurs, un très gros budget, et l'idée c'était, on va montrer qu'il n'y a pas de problème, et après on ira à la communauté européenne, on dirait, vous voyez, il n'y a pas de problème. Manque de peau, il y a des problèmes. Et le professeur qui dirige cette étude, Arpad Pusztai, est très troublé, parce que d'abord il se rend compte que les pommes de terre transgéniques, quand il commence à les analyser, elles ne sont pas semblables ni similaires aux pommes de terre conventionnelles, contrairement au sacro-saint principe d'équivalence en substance qui fonde toute la réglementation sur les OGM. Déjà, ça m'inquiète parce qu'il se dit, c'est quand même curieux. Non, moi qui suis un scientifique, normalement, quand je répète dans les mêmes conditions une expérience, je devrais avoir le même résultat systématiquement. Et là, c'est pas le cas. Et puis surtout, il se rend compte que les rats présentent des problèmes, prolifération de cellules dans l'estomac. Il dit, bon, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller plus loin, de voir d'où ça vient. Et il commence à se dire que finalement, ce n'est pas le gène qui a été introduit dans la pomme de terre qui pose de problème. Parce que ce gène, c'est une lectine qui a cette fonction insecticide. Ils l'ont testé à part, toute seule, dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Et simplement, en la prenant du perce-neige, d'où elle provient. Il n'y a pas de problème. Donc, il se dit, ça doit être la technique de manipulation génétique qui pose problème. Et c'est ça qu'il faut continuer à tester. Il dit bien, continue à tester. Sauf que, comme vous venez de le dire, il se passe une chose absolument incroyable, cette histoire est absolument incroyable. On finira par savoir qu'il y a donc un coup de téléphone, vous avez raison, de Clinton à Blair, de Blair au directeur du Rowett Institute, et qui remonte très probablement à Monsanto. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, le PDG de Monsanto, il s'appelle Robert Shapiro, c'est le seul démocrate qui ait jamais connu cette firme à la tête de la firme, c'est-à-dire que tous les autres étaient républicains, et c'est un proche de l'administration démocrate et de Clinton. Et d'ailleurs, Clinton, dans un discours, vous savez, à la Nation, a rendu hommage à Monsanto. Donc, on va arrêter, c'est-à-dire qu'on ne voudra pas savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, je veux pas dire que les OGM sont forcément à mettre à la poubelle systématiquement, mais ce qui est troublant dans ce dossier,
c'est pas chercher à savoir.
Voilà, on ne veut pas essayer de savoir. Et tous ceux qui essaient de savoir, il leur arrive ce qui est arrivé à Arpad Pusztai ou à une autre collègue à lui en Italie, Manuela Malatesta.
Mais c'est à se demander ce que mangent les dirigeants de Monsanto.
Thank you.
Marie-Monique Robin, la chose la plus désespérante dans votre enquête, c'est ce qui se passe dans les pays émergents, ce qui se passe en Inde avec le coton, ce qui se passe au Mexique avec le maïs, ce qui se passe au Paraguay aussi. Dans tous ces pays où Monsanto est en train de prendre l'exclusivité de la culture dominante du pays, il y a des faillites, des endettements, des suicides, des maladies qui naissent comme celles provoquées par la dioxine sur les jambes des enfants qui malheureusement traversent les champs dans lesquels Monsanto a mis du Roundup ou a fait pousser ses plantes transgéniques. Et donc on a voulu avec Martine Abad, bonsoir Martine, essayer de donner une petite touche d'espoir justement puisqu'on dit les consommateurs, les consommateurs ont aussi leur mot à dire. Et il y a une association qui s'appelle Cocopelli et qui se bat justement pour la diversité, pour qu'on conserve la diversité des plantes.
Vous parliez de lanceurs d'alerte tout à l'heure et c'est vrai que c'en est une. Cette association vend des semences illégales, il faut le dire, ce qui lui vaut en ce moment d'être poursuivi et d'avoir de gros problèmes avec la justice française. Car vous ne savez peut-être pas qu'il existe en France un catalogue officiel des semences autorisées à être cultivées. Dans ce catalogue figurent près de 90% de semences hybrides, c'est-à-dire obtenues en laboratoire par croisement. Et ces semences hybrides, elles ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire que l'agriculteur qui les plante, l'année d'après, il ne pourra pas récolter les graines.
Il devra racheter à nouveau des semences.
Voilà, il devra en racheter. Et évidemment, c'est une dépendance accrue de l'agriculteur aux semenciers. Alors j'ai rencontré Raoul Jacquin, il est agriculteur et membre très actif de l'association Cocopelli, qui voudrait donc voir libérer ses semences. Ça signifie pouvoir s'affranchir de ce catalogue, cultiver comme on veut, ce qu'on veut, en légumes et en céréales, et ça signifie aussi sauver la biodiversité.
Si vous voulez, aujourd'hui, en légumes, en céréales, c'est très très important aussi, on a un énorme patrimoine végétal, qui est en train de tomber complètement dans l'oubli, faute d'être multiplié et faute de trouver des marchés. Voilà. Et vous avez des petites niches pour certains légumes qui ont très très peu de débouchés ou sur des marchés totalement locaux. Et ce qui fait que comme ça ne génère pas un profit ou un retour sur investissement pour les semenciers, eh ben c'est des variétés qui tombent dans l'oubli. On a perdu la disposition ou la mise à disposition de 95% des variétés de nos parents ou de nos grands-parents selon l'âge qu'on a. Ce qui est dramatique pour deux raisons aujourd'hui principales, c'est les perturbations climatiques qui sont plus du tout une vue de l'esprit des écolos comme on a bien voulu nous le faire croire pendant 20 ou 30 ans. Donc on a des variétés qui justement ont coévolué au cours des siècles avec les paysans, les besoins et le climat. Donc c'est des variétés qui s'adaptent très très facilement aux perturbations climatiques comme on les connaît maintenant. Contrairement à toutes ces variétés modernes qui sont hyper spécialisées, hyper dépendantes des énergies fossiles, et que le moindre aléa climatique hypothèque la récolte. Et aujourd'hui, on a une semence qui est complètement liée aux énergies fossiles, les semences modernes, qui sont faites pour être cultivées avec des gros moyens mécaniques, avec des engrais, avec des pesticides. Tout ça, ça vient des énergies fossiles. Et donc, le jour où le pétrole va être vraiment très cher ou vraiment très rare, eh ben, on va avoir énormément de problèmes pour produire notre alimentation.
Et vous avez combien de plantes inscrites à votre catalogue? Combien de variétés, plutôt?
Disons que la banque de semences Cocopelli, aujourd'hui, c'est autour de 2500 variétés.
Comment vous les avez recueillies, toutes ces semences?
Ben, disons que c'est un virus qui s'auto-féconde pas mal. Et c'est très très bizarre. Au début, on est un peu tous atteints de collectionnites, donc quelques-uns ont démarré avec des tomates, d'autres avec des courges, d'autres avec des pommes de terre, avec des haricots, avec du maïs. Et puis maintenant, mais c'est spontanément, régulièrement, on a des gens, quand on est sur un marché ou sur une fête des plantes, on a des gens qui nous apportent une semence en disant, tiens, ça c'était les haricots que cultivait ma grand-mère, ça c'était la courge qui se cultivait localement, ça c'était le poivron qu'on employait pour faire la ratatouille.
Parce que la bataille de cette biodiversité, c'est aussi la bataille du goût.
Moi, je dis très souvent que c'est en fait une bataille culturelle. Parce que bon, on l'a vu, hein, nous sommes un pays épicurien où une grande part de notre culture est basée sur l'organoleptique, sur le côté convivial du plaisir et des joies de la table. Et puis, effectivement, le goût, la texture, les saveurs.
Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a aussi un catalogue comme ça, des variétés qu'on est autorisé à commercialiser et à cultiver?
Eh ben non, pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pays libéral oblige. En fait, il n'y a pas de catalogue officiel, il y a des catalogues des marchands de semences. Ce qui fait qu'il y a autant de catalogues aux États-Unis qu'il y a de marchands de semences. Et pour l'exemple, aujourd'hui en France, il reste bon an mal an, peut-être 400 variétés reproductibles inscrites au catalogue officiel. Et les États-Unis ont près de 9000 variétés reproductibles inscrites aux différents catalogues des semenciers états-uniens.
Ça veut dire qu'il vous arrive d'aller récupérer des vieilles semences aux États-Unis ?
Ah, mais tout à fait. Et c'est complètement logique, parce que les États-Unis étant un pays neuf, la plupart des migrants au cours des siècles emmenaient pour eux ce qui était le plus essentiel, c'était leur souveraineté alimentaire future. Donc ils emmenaient des semences. Et on sait très bien que tous les gens qui sont partis de France, d'Espagne, d'Irlande, d'Angleterre, de Hollande, etc., ont emmené dans leur poche
des graines.
Et donc, en fait, ce sont des vieilles graines européennes qu'on ne connaît plus. Et en fait, on s'aperçoit que les conservatoires de semences états-uniens ont aujourd'hui ces variétés à disposition. Donc voilà. Donc, on a pillé les Amérindiens au niveau des tomates, et des piments, et des courges, des aubergines, etc.
Des pommes de terre.
Des pommes de terre, bien sûr, des haricots. Et puis, elles sont revenues en Europe, elles sont reparties en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, on va rechercher cette génétique qu'on a perdue aux États-Unis.
Alors, finalement, c'est ça que vous demandez en France, une liberté totale, une libéralisation des semences.
Oui, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut être très très vigilant, parce qu'il ne faut pas que ça arrive à la spoliation, justement, des maraîchers, des paysans ou des jardiniers du dimanche, quoi. Les variétés doivent être pour nous libres d'accès et d'utilisation. Voilà. Mais la création d'une espèce de répertoire de l'existant devrait permettre de protéger ces variétés. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des grands brigands de la semence mondiale qui récupèrent des variétés, qui les séquestrent pendant quelques années, qui ensuite bidouillent un brevet quelconque dessus pour X ou Y raison, et après, cette variété leur appartient. Et ce qui fait que la création d'un répertoire qui serait géré au niveau national permettrait de protéger ces variétés en disant mais elles existent, donc elles sont du domaine public, elles sont un bien commun, donc hors de question qu'elles soient privatisées parce que l'Imagrin ou Syngenta ou Monsanto ont des vues dessus.
Comment vous voyez l'avenir, vous ?
Ben, avec un immense respect pour l'humain, on est obligé de le voir en rose, parce que sinon, si on est fataliste... Non, je crois qu'il serait inconvenant de ne pas en penser un sursis, à une insurrection des consciences. Ça a été un mot à la mode, quoi. Et c'est une question de survie de l'espèce humaine, tout simplement. Vous savez, je crois que il y a une image que j'aime bien transposer, une image de Lao Tzu, qui dit que la façade d'une maison n'appartient pas à son propriétaire, elle appartient à celui qui la regarde. Je crois qu'aujourd'hui, bon, que ce soit Monsanto, Syngenta, etc., sont en train de nous bâtir la façade de notre environnement, et nous l'acceptons. Il suffit que nous disions non, et cette façade va elle-même s'écrouler. Ils ont monté un immense édifice, mais parce que nous consommateurs, à différents degrés dans notre pouvoir d'achat, nous le voulons bien. Et en plus, il faut qu'on se réapproprie autre chose. C'est que la semence, c'est quelque chose de philosophique. La semence, qu'elle soit végétale, animale, le sperme, c'est une semence. Et à partir du moment où on touche à l'essence de la vie, on touche à la philosophie.
Et voilà, et bien vous qui mangez tous les jours, vous qui avez des enfants et qui avez envie qu'ils vivent dans un monde normal, sans risquer d'attraper le cancer, je vous en prie, lisez Le Monde selon Monsanto, le livre de Marie-Monique Robin, qui sort aux éditions de La Découverte le 6 mars et surtout le 11 mars à 21h sur Arte. Ne ratez pas la diffusion du film. Merci infiniment Marie-Monique Robin. Au revoir.
Au revoir.
Radio France soutient la lutte contre le sida le 27 mars à 20h au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre National de France. Le premier concerto pour piano de Prokofiev, joué par Lise de la Salle, la deuxième suite de Bacchus et Ariane de Roussel et Ogelala, le ballet scandaleux d'Erwin Schulhoff. L'Orchestre National de France pour le SIDAction, le 27 mars 20h, Théâtre des Champs-Élysées. Réservation sur concert.radiofrance.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 21h. C'est l'heure des informations avec José Sétien.
Une réunion convoquée en urgence en fin d'après-midi à l'hôtel Matignon pour faire face à la hausse des prix des produits alimentaires. C'est la suite de l'enquête de l'Institut National de la Consommation publiée par 60 millions de consommateurs. Dans les grandes surfaces, les prix des produits laitiers et céréaliers ont progressé de 5% à 48% entre novembre 2007 et janvier 2008. Le Premier ministre François Fillon a annoncé une opération coup de poing dès demain pour lutter contre les abus qu'il a imputés aux industriels et aux distributeurs. L'évolution réelle des prix va être vérifiée vérifiés dans les grandes surfaces et les résultats de l'enquête seront communiqués le 10 mars au plus tard, c'est-à-dire au lendemain du premier tour des élections municipales et cantonales. François